Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Romy Ménage. Onde Femme. Onde Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femme, comme tous les mercredis de 17h à 21h. Onde Femme, c'est la parole donnée aux femmes sur Radio Zone. Ces femmes qui petit à petit gagnent leur terrain dans la parole, dans exprimer ce qui se passe à propos d'elles, mais qui ont toujours besoin d'un espace radiophonique pour creuser les questions qui les concernent, et nous nous faisons un point d'honneur de leur réserver cet espace. Remue Ménage, 17h-18h30, et aujourd'hui, eh bien, cinéma. Cinéma comme la semaine passée. D'ailleurs, je crois que pendant quelques semaines, nous allons être très branchés cinéma. Il se passe tout à coup un bouleversement au niveau du cinéma. Enfin, le travail des pionnières, des femmes qui, depuis des années, s'acharnent à faire connaître le travail des femmes ou à faire connaître la vie des femmes au travers des films. Et dans ce sens-là, il n'y a pas que les femmes qui le font, des hommes le font aussi. Eh bien, enfin, je crois qu'ils gagnent aussi du terrain, puisque de plus en plus des films qui évoquent les femmes ou réalisés par des femmes sont distribués dans les salles commerciales. Et donc, tout un chacun peut les voir sans avoir besoin de se déplacer dans les festivals qui, eux, cherchent à faire connaître ces films, et jusqu'à aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés dans les salles commerciales. Alors, la semaine passée, nous évoquions les films qui ont été montrés au Festival de films de Fribourg, festival qui présente surtout les films réalisés dans le Sud, que ce soit par des femmes ou par des hommes. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un film que nous avions vu l'année passée à Fribourg, dans le cadre de ce même festival, et qui enfin sort dans une salle commerciale dans les villes de Suisse romande. Ce film, c'est « Trois femmes en Palestine » réalisé par le réalisateur israélien David Ben-Shetrit. « Trois femmes en Palestine » de son titre original « À travers le voile de l'exil ». Il y a toujours des choses étonnantes en ce qui concerne les traductions des films. Le titre original est en anglais, « Through the Veil of Exile », et ça aurait été si beau « À travers le voile de l'exil », ça gardait une forme de poésie. Poésie que d'ailleurs défend David Ben-Shetrit, vous l'entendrez tout à l'heure. Et pourtant, on a traduit ça « Trois femmes en Palestine », comme s'il fallait identifier très concrètement de quoi parlait le film. Bref, pour ce qui nous concerne, la joie est immense de voir ce film sortir dans une salle commerciale, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, à Genève, au CAC Voltaire, où il sera visible dès le 22 mars prochain. Et il était présenté en avant-première aux amis et amies de l'association Trigon Film. Pourquoi cela ? Puisque c'est le Trigon Film qui distribue ce film en Suisse romande. Vous connaissez déjà Trigon Film. Trigon Film a fêté ses 5 ans en septembre dernier. Et à cette occasion, nous avions rencontré Marc Houvet et des gens qui soutiennent l'action de Trigon Film, qui se fixent comme objectif de faire connaître justement ces films réalisés par des hommes ou des femmes du Sud. Et donc, Trigon Film convie chaque fois qu'il sort un film en salle commerciale les gens qui le soutiennent, parce que si vous le désirez, vous pouvez être vous aussi un soutien à l'association Trigon Film, qui fait des efforts énormes, non seulement pour faire connaître ses films réalisés dans le Sud, mais en plus qui distribue un prix lors du Festival de Fribourg pour soutenir un réalisateur ou une réalisatrice dans une de ses œuvres, qui parfois coproduit des films, tel avait été le cas du film La Rizière dont nous avions parlé, un film réalisé par un réalisateur cambodgien, Ritipan. Donc beaucoup d'actions de Trigon Film pour soutenir les réalisateurs et réalisatrices du Sud. Donc si vous le désirez, vous pouvez être vous-même membre de l'association Trigon Film, et pour cela c'est très facile. Il vous suffit d'écrire à Trigon Film 1 route de Sauverny 1290 Versoix, Genève. Je répète l'adresse, donc Trigonfilm, 1 route de Sauverny, 1290 Versoix, Genève. Le téléphone ou fax en même temps, parce que si vous avez de quoi le faire, il suffit d'envoyer un fax. C'est le 022 755 27 18, je répète, 022 755 27 18, et ils ont besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas, et en plus vous aurez l'énorme chance d'être invité pour les avant-premières des films distribués par Trigonfilm. Et c'était donc le cas lundi passé au CAC Voltaire à Genève, où l'on présentait donc trois films Femmes en Palestine réalisés par David Benchetrit. David Benchetrit était là à la fin du film, il a enclenché une discussion avec les spectatrices et spectateurs. Il était là parce qu'entre autres, il était le président du jury du Festival de Fribourg. Donc Trigonfilm a profité de sa présence pour faire cette avant-première, un petit peu à l'avance par rapport à la sortie en salle, mais qui était très intéressante vu la présence du journaliste. Alors quant à moi, qui avais déjà vu le film l'année passée, j'y suis retournée d'abord parce que je me réjouissais énormément de revoir ce magnifique, ce superbe, ce splendide film que bien sûr je vous encourage extrêmement vivement à aller voir maintenant qu'il est à votre porte. Et deuxièmement parce que j'avais envie de savoir ce que David Benchetrit allait dire d'autre que ce qu'il m'avait déjà dit à Fribourg en février dernier, à propos de son film et surtout du contexte dans lequel il avait réalisé son film. Il avait donc réalisé son film en 1992, avant qu'un quelconque accord de paix soit signé entre Israël et les Palestiniens. Donc peut-être les choses avaient-elles changé, peut-être avait-il des nouvelles à nous donner des trois femmes dont il parle dans son film. Donc cela m'intéressait de le rencontrer, enfin de l'écouter. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui tout d'abord de réentendre l'interview que j'avais faite avec David Benchetrit à Fribourg l'année passée à propos de son film. Et il était d'accord avec moi ce lundi qu'il ne valait pas la peine de recommencer une deuxième interview, dans la mesure où ce qu'il m'avait dit l'année d'avant était toujours bien évidemment complètement ce qu'il avait envie de dire et qu'il n'aurait même pas forcément autre chose à redire. Et si j'étais d'accord de vous transmettre simplement les nouvelles qu'il avait données à tous les spectateurs et spectatrices qui étaient présents ce soir-là, alors je vous les transmettrai tout à l'heure. Alors, je vous raconte peut-être en quelques mots, parce que juste que vous sachiez de quoi nous parlons quand nous évoquons trois femmes en Palestine avec son réalisateur David Benchetrit, eh bien c'est, comme le titre l'indique en français, c'est le portrait de trois femmes. Trois femmes parmi les très nombreuses femmes que David Benchetrit et sa compagne ont rencontrées dans les territoires occupés où David Benchetrit a vécu pendant longtemps. Donc il connaît bien et les gens le connaissent bien. Il a pu donc approcher facilement les familles. Alors, il vous racontera lui-même les péripéties du tournage, mais je vous présente et je vous donne quelques images qui concernent ces trois femmes. Il y a tout d'abord Dalal. Je dis tout d'abord parce que, comme ça, pour commencer par l'une des trois, en réalité, dans le film, leurs histoires sont très entremêlées, vous le verrez, avec beaucoup de douceur et d'à propos dans la rencontre de leurs histoires respectives. Dalal, eh bien, c'est une femme qu'on qualifierait de militante, nous autres. Une femme qui a l'air d'avoir une trentaine d'années, au moment où le film est réalisé. Elle est née dans un camp de réfugiés près de Gaza, le camp de Shati. Et à un moment donné dans son existence, quand elle est encore très jeune, elle a 15 ans, elle va être embarquée comme ça dans une histoire militante au sein du FLP, du Front Populaire de Georges Habash. Elle va les aider à faire différentes choses possibles en tant que militante à son âge. Et un jour elle a des affrontements avec son père parce qu'il est convaincu qu'elle est souvent absente, entre autres à l'école, parce qu'elle drague. Ne se doutant pas de son activité militante, elle va décider de s'enfuir, de quitter, et donc elle se réfugie dans les groupes militants. Et puis le jour où elle décide de rentrer chez elle, son père tout heureux de l'accueillir, quelques minutes plus tard, on frappe à la porte, on vient l'arrêter. Et elle va passer 12 ans de sa vie en prison. Et elle va ressortir à 25 ans, célibataire. Et là, elle raconte dans le film ce trajet incroyable de femme militante, indépendante, qui a à un moment donné décidé de fuir sa famille qui l'oppressait trop. Et elle va se retrouver dans une autre prison. La prison à Gaza, dans sa famille, dans les gens qu'elle rencontre, qui ne l'acceptent pas parce qu'elle est célibataire, parce qu'elle veut faire ce qu'elle a envie de faire. Elle va tenter d'aller travailler en Jordanie ailleurs. Mais finalement, elle reviendra chez elle. Et là, elle va vivre jour après jour l'enfermement d'une femme seule, célibataire, à qui l'on rabâche jour après jour qu'elle n'est pas mariée et que le seul vrai destin d'une femme, c'est d'être mariée et de faire des enfants. Et cela, on le découvre à la fois avec un certain sourire au vu des remarques dans les repas familiaux, par exemple, et en même temps avec beaucoup de tristesse quand on la voit, par exemple, aux ironies du sort, seule dans une chambre face à la télévision, en train de regarder les images de Dallas. Et puis, la deuxième femme, c'est Marie. Marie, elle, est plus âgée. Elle a 60 ans, à peu près, j'imagine. Elle devient, à cause de l'histoire, israélienne lorsqu'elle est jeune femme, parce qu'elle habite Haïfa. Elle est protestante dans sa communauté arabe de Haïfa, ce qui est assez particulier. Elle va épouser un journaliste musulman. À cause de ces méli-mélos, elles vont avoir de la peine à rester à vivre à Haïfa. En plus, Haïfa devenu israélien, donc en plus se presser en tant que palestinien. Elle va pouvoir y rester jusqu'en 1967, la guerre des six jours, parce qu'entre autres, elle milite au sein du Parti communiste israélien qu'elle trouve dans cette mixité d'Israéliens et de Palestiniens à cause de leur choix de gauche, une raison de vivre. Et puis 67, c'est la guerre. Et là, ils sont expulsés, ou ils choisissent plutôt d'aller vivre à Gaza dans le lieu d'origine de son mari parce qu'il faut qu'ils retrouvent absolument leur identité palestinienne. Et là va recommencer pour elle une autre lutte, la lutte d'être trop israélienne par rapport aux Palestiniens chez qui elle se retrouve à Gaza, qui est pourtant le lieu d'origine de son mari. Et ça va être une longue lutte. Il faut préciser peut-être aussi que Marie est d'un niveau social plus élevé. Elle est de milieu bourgeois, de milieu aisé. Ses enfants étudient quand ils étaient à Haïfa. Et donc, il y a aussi la différence de niveau social. Ça a beaucoup d'importance, vous le verrez, on le repère dans le film. Et elle va vivre des moments difficiles à Gaza puisque elle aura sa fille qui va retourner à Haïfa ne supportant pas l'oppression dont ils sont victimes, entre les désaccords entre les gens avec lesquels ils vivent. Son fils va décider aussi, par souci d'affirmer son identité palestinienne, va s'engager aux côtés de l'OLP dans la guerre. Et puis il sera chassé par les autorités israéliennes et il était au moment du film du côté égyptien et parlait à sa famille seulement de part et d'autre de barbelé parce qu'il n'a plus le droit de rentrer en Israël, en Palestine. Donc tout ceci rend la vie de Marie très très dure et pourtant elle arrive finalement à s'intégrer. Elle va mener un travail en tant que membre de l'ONU, l'UNRWA, dans les territoires occupés et faire un travail très actif tant auprès des femmes que auprès, on le découvre, encore d'Israéliens par exemple. Elle dialogue avec des jeunes Israéliens sur ce que ça veut dire d'être un lanceur de pierres et peut-être pour eux d'être un jeune engagé au sein des forces israéliennes dans les territoires occupés. Et puis la troisième femme, ça c'est un portrait qui est très 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 touchant, les autres le sont bien sûr aussi, mais Mohamed, elle a quelque chose de particulier. C'est une femme paysanne, elle a 50 ans je suppose, quelque chose comme ça. Elle vit dans un village, dans un camp de réfugiés près de Jéricho, Ain Sultan. Et on sait qu'elle est analphabète parce qu'elle se fait lire le journal par une petite gamine à côté d'elle. Elle va épier la classe pour prendre un petit grain de quelque chose. Et elle sera mariée comme beaucoup de femmes musulmanes, très très jeune. Elle a 13 ans, si je me souviens bien, et elle épouse un homme qui est beaucoup plus vieux qu'elle, avec qui elle va avoir 8 enfants. Et puis elle a passé toute sa vie dans les camps de réfugiés. Elle dit qu'elle ne connaît personne, ni Israël, ni les Juifs, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle connaît les soldats et les soldats qui viennent avec leurs armes, comme si les maisons étaient à eux, comme si la terre était à eux. Et d'ailleurs, en grande partie, bien sûr, la terre est à eux. D'ailleurs, sa colère est immense à ce propos, parce qu'elle sait qu'elle n'a plus de terre pour travailler. Mais elle est surtout en colère contre ses parents qui, eux, ont laissé prendre leur terre, même parfois qui l'ont vendue, pour pouvoir aller ailleurs, et vendue entre autres à de riches Palestiniens pour qui aujourd'hui Oum Mohamed travaille. Elle travaille dans des cultures de bananes pour des Palestiniens très riches. Et là peut-être aussi, on se dit qu'une fois l'histoire avec le premier ennemi réglée, il faudra aussi peut-être se soucier d'histoire sociale dans le propre pays. et où Mohamed dit des choses très très importantes à propos de la terre, et elle dit que de toute façon, finalement, elle a tout perdu, elle a plus rien à perdre, et il faut qu'elle parle à cette caméra. Et d'ailleurs, David Benchetrit est très fier de ce désir de cette vieille femme de parler absolument à son film. Alors voilà, trois portraits que vous découvrirez au fur et à mesure que David Benchetrit parle, puisqu'il y fait sans arrêt référence, mais que j'espère surtout que vous irez découvrir vous-même en regardant le film « Trois femmes en Palestine ». Alors tout de suite, une rencontre avec David Benchetrit. Mais pour commencer, d'abord, les toutes premières images du film, qui sont surtout merveilleuses parce qu'elles sont soutenues par un chant magnifique chanté par Rim Banna, qui est une chanteuse palestinienne, avec les paroles d'un poème d'un poète palestinien, semble-t-il très connu, Mahmoud Darwish. Ô nuit, comme tu m'as fait marcher pieds nus. Si lourd est le fardeau que mes épaules s'affaissent. Ne croyez pas que notre long exil, ô mer, vous a fait sombrer dans l'oubli. Plus se prolonge notre exil, plus je pense à vous dans mon cœur. Jamal, Jamal, mon cousin. Jamal, mon cousin, embrasse mon père et ma mère. Allège le poids de mon cœur. Et avec ces mots, salut ma sœur bien-aimée qui vit si loin de moi. Ce qu'il y a de très particulier donc, dans ce film, on le dit en un mot, il raconte l'histoire de trois femmes palestiniennes. Mais ce qui m'a d'abord frappé au premier abord, et ce qui doit, je suppose, frapper pas mal de gens, c'est que en le signant, vous attirez l'attention sur deux choses. Premièrement, vous êtes un homme qui donnait la parole à trois femmes arabes. Et vous êtes un homme israélien qui donnait la parole à trois femmes palestiniennes. Deux signatures qui sont lourdes de sens pour nous, femmes qui nous occupons des femmes et qui savons bien que ce ne doit pas être très facile pour un homme de parler à des femmes arabes. Et pour tout un chacun intéressé par ce qui se passe dans le Moyen-Orient, qui sait bien que ce n'est pas très facile pour un Israélien de rencontrer des Palestiniens et vice-versa, et de dialoguer. Alors, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer quel a été votre cheminement sur ces deux voies ? Peut-être quel est le chemin qui a été d'abord le plus dur à prendre ? Je ne sais pas, moi, ce qui me surprend le plus, je ne suis pas sûre que ce soit celui de l'Israélien qui rencontre les Palestiniennes, alors que c'est peut-être certainement ce qui frappera le plus les gens. Moi, c'est peut-être plus l'homme qui rencontre les trois femmes arabes. Mais pour vous, quel a été le chemin le plus dur dans ces deux voies ?
D'abord, je tourne dans les territoires occupés depuis 16-17 ans, étant comme caméraman et producteur. Et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de, comme caméraman, avec beaucoup de réalisatrices femmes. Donc ce qui m'a plutôt sensibilisé vers le côté des femmes. Et j'ai voulu toujours faire des films sur des femmes. Et c'est pas le premier film sur la femme. J'ai fait un autre film qui s'appelle Nadia, sur une jeune fille palestinienne, en 84. Donc c'est le deuxième en tant que réalisateur sur les femmes. Mais j'ai beaucoup tourné de films en tant que caméraman avec des femmes, des réalisatrices femmes. Le plus dur n'a pas été de produire le film avec les Palestiniens. Ça, puisque je les connais depuis très longtemps, on se connaît. Je viens d'une culture du monde arabe. Je suis né au Maroc, donc ça m'a permis d'avoir ces sensibilités culturelles dans la musique, dans le choix des femmes, dans l'atmosphère du film. et qui a fait ce film Voilà l'exil. Et puis il y a aussi la grande contribution de ma femme qui s'appelle Cindy Bardavid, qui est la monteuse du film, qui est la coproductrice. Je l'ai connue pendant le tournage. Et je repensais que c'est peut-être la plus grande contribution, ça vient d'elle. Que ce soit un film long, doux, délicat, avec minimum de violence. Et ça n'a pas été facile de faire un film avec des femmes palestiniennes. Il fallait faire toute une longue recherche qui a duré très longtemps. Il fallait vivre dans les territoires occupés, dans les camps de réfugiés pendant un an. Il fallait passer par les hommes. Il fallait avoir l'accord des hommes. Il fallait être amis avec les hommes, les maris, les pères, les grands-pères, les frères. Une fois qu'on a eu cet accord dans la société palestinienne, qui est une société très conservatrice, on pouvait aller plus loin.
Mais vous y disiez hier soir dans le débat, ou très court débat qui a suivi la projection du film ici à Fribourg, qu'à l'origine, votre idée n'était pas de donner la parole aux femmes. C'est le silence des hommes, ou la langue de bois des hommes, qui vous a donné envie de donner la parole aux femmes.
C'est le manque de sensibilité des hommes dans le Moyen-Orient qui m'a fait comprendre que dans ces sociétés palestiniennes et beaucoup d'autres sociétés, en fin de compte, qui se trouvent en plein struggle, en plein lutte contre l'occupation ou lutte sociale, la voix des hommes est une voix très politique, très dogmatique, très macho. Et ça ne crée pas ni un scénario, ni un film. Ça ne faisait pas un film, ça ne m'intéressait pas du tout. Je voulais dépasser tous ces slogans, tous ces mensonges. Et j'ai trouvé dans la femme, surtout la femme palestinienne, que c'est une femme très courageuse, très honnête, très intègre, très poétique en même temps, puisqu'elle garde un patrimoine culturel. C'est son rôle un peu dans la société palestinienne, alors que les hommes s'occupent de la guerre, de faire la guerre. J'ai trouvé quelque chose qui dépassait tout ça. J'ai trouvé une profondeur qui ne pouvait pas exister chez les hommes.
Pourtant, elles sont quand même très politisées parce qu'elles ont toute une conscience impressionnante sur la question Palestine-Israël et leur situation politique et sociale dans ce contexte-là.
C'est ce qui est formidable chez les femmes palestiniennes. Elles sont très politisées, elles se battent, elles luttent, elles font la prison comme les hommes, mais elles arrivent à garder quand même, à ne pas perdre ces sensibilités-là humaines. Et c'est ça qui m'a plus marqué, c'est ce qui m'a poussé à faire en fin de compte le film. J'ai rencontré un peu plus de 120 femmes, dont le choix n'était pas facile. J'ai choisi ces trois femmes pour deux raisons. Mais la raison la plus importante, c'est leur intégrité, leur honnêteté et la façon dont elles gardaient leur dignité en tant que femmes, en tant qu'êtres humains. Et elles faisaient aussi, elles étaient assez courageuses de faire un début d'une autocritique et ne critiquer pas seulement l'occupation israélienne, mais critiquer aussi leur société palestinienne pour ce qu'elle fait pour la femme palestinienne.
On y reviendra peut-être.
Donc, c'est un film sur, en fin de compte, c'est un film sur l'exil, mais sur l'exil, c'est un double exil, l'exil de la terre, de la vie natale, du passé, mais aussi l'exil intérieur dans ces femmes qui ont tellement lutté pour la société, vivent, en retournant, en sortant de la prison, vivent dans leur propre société. C'est un double exil.
Alors c'est justement de ça dont j'ai envie de parler tout à l'heure, mais il y a encore sur la deuxième signature qui peut surprendre l'homme israélien d'origine marocaine, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, par rapport à la situation peut-être des juifs marocains à l'intérieur de la société israélienne, l'homme israélien qui signe un film qui donne la parole à des femmes palestiniennes, donc avec une idée. J'ai lu dans une interview que vous auriez donnée dans un journal français que votre idée était de faire cesser les mensonges à cause des divers slogans que chacun utilise de chaque côté et d'essayer de transformer un petit peu la mentalité de la société israélienne, voire même de la société européenne si c'était possible. C'était derrière votre idée au moment où vous avez pensé à ce film ?
Je ne pense pas que j'ai eu une idée fixe, idéologique avant de faire un film. Je ne marche pas de cette façon, je ne travaille pas. Je sens des choses, je vais avec les tripes. J'ai fait toute une recherche, j'ai rencontré ces trois femmes. Et je les ai choisies, mais une partie de ces femmes ont choisi. La paysanne, par exemple. La paysanne, c'est-à-dire qui nous a choisi en fin de compte. Elle voulait faire ce film. Elle nous disait qu'elle était réfugiée pendant trois fois dans sa vie, trois guerres. Elle n'avait plus rien à perdre, elle veut parler. Et en fin de compte, c'est elle qui nous a choisi. J'avais pas une idéologie à la base avant d'avoir fait ce film. Il y a eu trop de films qui ont été faits, et trop d'articles par la presse écrite, trop de moments d'actualité qui montraient que la violence dans cette région-là, entre Palestiniens et Israéliens. Mais ils ne montraient pas du tout ce qui se passait dans ces sociétés, la mentalité, la culture, l'histoire. Et pour moi, j'avais envie de défendre ces sociétés à travers la culture. Un nouveau regard qui est très mal connu par l'Europe, mais qui est encore très mal connu par les Israéliens même, qui vivent à 10 km des Palestiniens. Donc, c'était un choc. Mais je voulais aussi un peu créer quelque chose en Israël, créer une solidarité des femmes israéliennes vers les femmes palestiniennes, à travers l'émotion, à travers la poésie, à travers même l'amour, quoi. Et les réactions dans les salles, puisque le film est sorti commercialement pendant 5 semaines, dans les salles cinématographiques israéliennes, qui a un grand succès, les réactions des femmes israéliennes ça pouvait être nos mères, nos sœurs, enfin, quand on ne les connaît pas. Parce qu'une image du Palestinien ou de la Palestinienne, étant terroriste, serveur de café, nettoyeur des rues, mais il n'y a pas une image profonde et complète d'un être humain. Ils n'ont pas été vus pendant plus de 100 ans comme des êtres humains. Et c'est ce que je voulais casser en fin de 30. C'est ces mensonges-là que j'avais envie de briser à travers le voile et l'exil. Je pense que ça a un peu quand même réussi.
Mais David Benchetrit, votre film est censé être un documentaire, ce qui n'est en général pas ce que les gens vont voir au cinéma. Alors, comment les gens font-ils le pas d'aller voir un documentaire? Ou bien est-ce que vous en avez quand même fait dans les salles ou peut-être ailleurs? J'ai entendu aussi hier soir que vous disiez qu'il passe dans les écoles, par exemple, maintenant. Que ce film est utilisé à la fois comme un documentaire et peut-être aussi comme un film de fiction, parce que quelque part c'est presque une fiction tellement on découvre une chose qu'on ne connaissait pas avant de l'histoire de ces trois femmes.
Moi je ne crois pas qu'il y a des films que documentaires. Je pense que tous les films c'est des fictions. Il n'y a pas des films documentaires. Je n'y crois pas ça. Yoris Evans peut-être était un des derniers. Mais il y a tout un nouveau cinéma d'auteur documentaire qui existe depuis 10 ans, qui est très apprécié surtout en France et en Angleterre, qui est un cinéma d'auteur qui devient de plus en plus un cinéma, enfin presque de fiction, c'est du documentaire, mais c'est de la fiction. On fait de la mise en scène, on manipule les choses pour créer des situations plus dramatiques, on fait bouger des choses. C'est pas du reportage télévision, c'est tout à fait à l'envers de ce que la télévision essaye de faire depuis, et fait depuis toujours, à part Arte plutôt, quoi. Donc je pense que c'est une des raisons pourquoi le film a assez réussi, non seulement en Israël, mais aussi aux États-Unis. Il a beaucoup attiré l'attention grâce à cette attitude d'esthétique, de beauté, de scène qui se raccroche très très bien. Pas de commentaires, c'est une signature, c'est-à-dire essayer de le voir différemment, comme c'est vu un peu en France, comme un cinéma d'auteur.
David Benchetrit, vous parliez tout à l'heure donc de l'histoire de ces trois femmes qui vivent un commun exil qui est celui d'avoir dû partir, ou du moins leurs parents, parce que la plupart d'entre elles ne l'ont pas forcément vécu au premier degré, ont dû quitter la Palestine soit en 48, soit en 67. Mais ce qui frappe, c'est que finalement, le deuxième exil dont vous parliez tout à l'heure paraît presque plus fort, en tout cas m'est apparu en le regardant, en regardant votre film, presque plus fort que le premier. Celui, effectivement, de la femme arabe dans la société dans laquelle elle vit. On a beau être militante, engagée, on se retrouve comme toutes les autres femmes. Celui de la femme bourgeoise, riche, dont on se méfie, mais aussi parce qu'elle a vécu un certain temps en Israël, donc elle est devenue étrangère même dans sa propre terre pendant un certain temps, elle doit convaincre. Et puis la femme paysanne qui est hors de sa terre, qui se sent trahie par les siens qui ont vendu la terre, et qui en est même prête à rejeter les autres femmes jeunes, parce qu'elle dit la terre c'est plus important. Est-ce que ce deuxième exil vous a surpris quand vous les avez entendues parler, ces femmes? Est-ce que vous vous attendiez à ce que finalement elles parlent de cet exil-là, qui quelque part est beaucoup plus une critique, pas du tout à Israël cette fois-ci, mais à leur propre terre?
Ça ne m'a pas surpris. Moi j'ai vécu ça personnellement. Ma mère est une de ces femmes. Et j'ai connu ma mère, elle a aussi souffert comme telle femme au Maroc. Donc... ça vient d'un début assez personnel. Je n'ai pas été très surpris. Je voulais faire un film qui est politique, mais qui est à la base d'une vie personnelle et dramatique, et qui garde une certaine poésie, et pas que des discours politiques. Donc, je n'ai pas été surpris. Mais j'ai été surpris peut-être de la force, de choc, de l'ouverture et de l'intégrité de ces femmes, d'aller au bout du discours social qu'ils avaient, de leurs problèmes personnels, avec un réalisateur israélien. C'est quand même assez étonnant. C'est que ça peut prouver tout à fait que le problème est très grave, en fin de compte, et beaucoup plus grave que le problème politique. Et tant que les femmes, tant que la société palestinienne ne résoudra pas aussi les problèmes des femmes, ils n'arriveront pas très loin. Peut-être qu'ils auront un petit État. Je crois qu'ils auront un État, mais un État très mesquin, très pauvre, avec beaucoup de misère et sans démocratie. Et ils font toutes les bêtises possibles que les Algériens ont fait. Juste après l'indépendance, ça se répète. Juste après l'indépendance de l'Algérie, les femmes ont été remises, quelques années plus tard, 3 ou 4 ans, le système de Boumdian les a remis dans la cuisine. Là, avant que l'indépendance commence, l'OLP les remet déjà dans la cuisine. Et c'est très grave. Et je pense que l'OLP a fait des grandes bêtises là-dessus, parce qu'il n'a qu'à perdre. Il n'utilise pas 50% de cette population qui a contribué au maximum à la lutte des Palestiniennes, qui étaient dans la rue, qui a tout laissé, des femmes qui ont fait la périsson, qui ont mal nourri nos enfants, et tout pour la cause palestinienne.
Mais ces femmes, David Benchetrit, à votre avis, quand elles vous transmettent cette préoccupation tellement forte, et on sent, c'est vraiment très très fort quand elles parlent dans le film, elles espèrent quoi? Finalement, quand vous disiez, la paysanne, elle a choisi de faire ce film. Donc, qu'est-ce qu'elles espèrent au moment où elles vous parlent dans ce film? Parce que ce film, vous l'avez tourné avant un quelconque espoir de conclusion de paix, puisque c'était en 92, donc il n'y avait même pas ça dans leur tête. Mmh. À votre avis, qu'est-ce qu'elles espèrent quand elles parlent de cette façon-là?
Pour moi, c'est un film aussi sur la mémoire palestinienne et sur la dignité des palestiniennes, des femmes palestiniennes. Et j'ai choisi ces trois femmes parce qu'elles gardent une certaine dignité que je n'ai pas trouvée chez les autres femmes. Elles ont tout perdu, socialement. Leur maison, leur village, elles ont été réfugiées souvent. Mais elles ont gardé une certaine dignité que je voulais que ça passe au public israélien. Cette dignité chez les femmes palestiniennes. Thank you.